On a déjà souhaité à tous les sont la bienvenue, on a déjà souhaité à tous les bienvenus et tous ceux qui sont aussi en ligne. On leur a souhaité les bienvenus. Que le Seigneur ce soir, oui, puisse bénir. Nous avons des salutations de la Nouvelle-Zélande, puisque là-bas déjà, c'est déjà dimanche. Donc, ils sont en avance de 12 heures sur nous. Et nous sommes simplement reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants de ce que Dieu nous appelle à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. J'ai les salutations que le frère Schmitt m'a rendues, des salutations de toute la Russie, particulièrement de Moscou, de l'Ukraine, de l'Oural, du Ouzbékistan, de partout. Nous avons des frères et des sœurs qui ont été appelés à sortir et qui servent le Seigneur dans la fidélité et qui attendent le retour de leur Rédempteur. Et comme déjà mentionné, nos bien-aimés frères et sœurs de la Nouvelle-Zélande, frères et sœurs Anderson, nous saluent fraternellement. Le frère Gratiens de Ashdod d'Israël remet cette salutation, le frère Lestens David de la Malawi, et ensuite le frère Bruce de Kapstadt, et ensuite le frère Etienne Genton. Et ces deux frères saluent avec deux écritures. Nous allons les mentionner tout à l'heure. J'ai encore des salutations. Je me suis écrit les salutations l'une après l'autre. Donc de la Finlande, de Nairobi, du frère Wallström, du frère Dr Mbillé, du Burkina Faso, des salutations du Burkina Faso, des salutations de Montréal, des salutations de notre frère Adia de la Roumanie, salutations particulières du frère Motika de Johannesburg, des salutations du frère Graf, et j'espère maintenant que je n'ai oublié personne, car ce ne serait pas bien. Ensuite, nous avons de la visite particulière ici de l'Afrique, et nous demandons à notre frère de Kananga de se lever pour que tous puissent le voir. Où est notre frère? Regardez ce frère. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, tous, au témoignage à Lomé, donc l'avion a été annulé, nous avons dû faire une nouvelle réservation, et ensuite, et donc par la tempête, il y a eu ce miracle dans l'air qui a eu lieu. Nous ne pouvions pas atterrir au Niger pour que nous puissions aller où nous avions planifié d'aller, donc c'est-à-dire au Burkina Faso. Mais nous allons sûrement encore dans une interview, remettre ce témoignage. J'ai l'intention, et on m'a demandé que nous puissions, ou alors le premier week-end en décembre, ou alors le premier week-end en janvier, que nous puissions vous donner une vue courte d'ensemble de ces voyages en Afrique de juillet et août, pour que vous puissiez voir ce que Dieu, par sa grâce, fait. Oui, tout ce qui se passe. Merci, frère. Ce sera très court. J'ai demandé aux frères qu'ils puissent faire un résumé de différentes villes pour que nous puissions aussi ici voir comment est-ce que des milliers et des milliers de personnes sont saisies et comment est-ce que la parole du Seigneur est reçue d'eux. Que Dieu te bénisse, bien mes frères. Ensuite, nous avons notre frère de Kinshasa ici. J'oublie toujours les noms. C'est mon problème. Que Dieu te bénisse. Et ce frère aussi était avec nous pendant tout le voyage. Et ensuite, nous avons le frère, ou nous avons d'autres frères ici. Et nous sommes simplement très reconnaissants pour ce que Dieu, par sa grâce, fait. Nous sommes heureux de ce que vous pouvez encore venir. Et aujourd'hui, cette pensée m'est venue. Combien de temps encore nous pourrons nous réunir ici tous les premiers week-ends? Combien de temps encore cela sera encore possible? Et nous voulons racheter le temps, utiliser le temps, et nous avons ici, n'est-ce pas, des frères et sœurs de tous les pays voisins de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de l'Autriche, de la Suisse, de la Roumanie, de la Belgique, de la France, de partout, et nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons encore venir et que nous pouvons encore venir, que ce soit en voiture ou bien en avion, et ainsi avoir part aux cultes, aux réunions par lesquelles, n'est-ce pas, nous recevons et nous avons la possibilité de porter le dernier message dans le monde entier. Nous nous sommes encore notés cela ici, je dois l'annoncer. Cette année, nous n'aurons pas de réunion ici le 31, mais comme toujours, nous allons nous retrouver ici le 1er et le 2e, donc le premier week-end de janvier, et je crois que donc ce sera le 4 et le 5 décembre, mais en janvier, ce sera le 1er et le 2e janvier. En décembre, ce sera le 4 et le 5 décembre 2010, et en 2011, ce sera le 1er et le 2e janvier. Et le 2 janvier, le 1er et le 2 janvier, ici, nous vous invitons déjà tous à ces réunions. Je me suis réjoui de ce que le frère Eric, chef des chambres, a mentionné et a exhorté ici la congrégation, rappelant qu'ici, dans cette salle, il faut qu'il y ait le recueillement et le calme total. Car notre Seigneur dit, ma maison doit être une maison d'adoration pour tous les peuples, pas une maison d'entretien, mais une maison d'adoration, une maison de prière. Nous venons pour prier. Pour nous recueillir, pour parler avec le Seigneur, pas avec les uns les autres, pour qu'il puisse nous parler. Nous nous recueillons avant la réunion. Ensuite, il y a le frère John de Bucarest qui est ici. Où est notre frère John qui puisse se lever? Où est notre frère John de Bucarest? Oui. Oui, frère John, que Dieu te bénisse parmi nous. Qui est aujourd'hui ici pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît. Avons-nous des amis ici qui sont là pour la première fois, qui sont venus pour la première fois? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous. Nous allons pas pouvoir parler des événements actuels dans le monde. Nous sommes tous informés de ce qui s'est passé dans les déroulements déjà de cette année, en catastrophe naturelle, en tout ce qui a visité la Terre. Et on doit simplement dire que ce sont des douleurs, douleurs d'enfantement. Ce sont des douleurs d'enfantement dans la nature et parmi les peuples et les nations. Tout est en douleur d'enfantement. Tout n'est plus tel que c'était. Et quand ensuite nous faisons cette remarque, devons faire cette remarque disant que tout de nouveau, tous est en train de, tout est en train de repartir à Rome. Tout est en train de repartir à Rome. On m'a donné un mail. Maintenant, il y a une statue de 36 mètres de Jésus qui doit être édifiée. De 36 mètres, cela devrait devenir un endroit de pèlerinage. Tout cela est contesté dans l'Écriture. Car dans la dans le premier commandement, il est écrit « Tu ne te ferais pas d'image taillée et de représentation des choses. » Tout ce qui est fait de la main de l'homme, tout crucifix, est un blasphème. Ne te fais pas d'image taillée et de représentation, mais les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Nous n'avons pas besoin de symboles. La croix est vide. La tombe est vide. Le Seigneur est ressuscité. Et nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié. Et de la même manière, en même temps, nous disons à tous les hommes, comme Paul aussi l'a dit, « Je suis crucifié avec Christ. » Ça ne suffit pas seulement de prêcher le Seigneur en tant que crucifié et ressuscité. Il faut que cela aussi devienne une réalité et que cela se passe, que nous-mêmes, nous soyons crucifiés avec lui réellement et que dans le baptême, nous avons été ensevelis avec lui pour désormais marcher en nouveauté de vie avec lui, étant né de nouveau par la puissance de sa résurrection. En ce qui concerne ce qui se passe, je me retiens entièrement. Nous ne savons pas combien de temps encore nous reste pour justement porter le message. Dieu voulant, si le Seigneur le veut, et que le temps encore le permet, du 2 au 13 mai, il y a encore un voyage en Israël qui est prévu. Que ce voyage ait lieu ou pas, personne ne le sait. Personne ne le sait. Du 2 au 13 mai. Mais nous savons que le Seigneur a un plan dans le temps. Et encore ce mois, j'ai utilisé chaque jour pour avoir des réunions particulières. Nous avons eu des réunions à Népal. Et quand on voit que même les pays voisins qui tous, quelque part dans le passé, étaient tous derrière le rideau de fer, que Dieu, maintenant, de partout, appelle à sortir et que le message vraiment va et atteint tous les peuples, les langues et les nations et les tribus. Alors nous pouvons simplement être reconnaissants au Seigneur. Bien sûr que il faut que cela soit aussi mentionné à l'intérieur du message. Donc, parmi le message, le chaos fait que ça croître. Les interprétations et les fausses doctrines font que ça croître. Mais cela n'est pas notre requête principale. Notre requête principale, c'est que nous comprenons que nous avons tant de problèmes parmi nous et tant de requêtes comme jamais auparavant. Il n'y a jamais eu de week-end comme celui-ci, avec tant de sujets de maladies et de problèmes et de requêtes dans le cœur des croyants. Nous pouvons regarder où nous voulons, il n'y a que des difficultés parmi nous. Nous pouvons mentionner Marc 7, verset 37, nous l'avons lu il n'y a pas longtemps ici, et aussi à Zurich. Le Seigneur a fait toutes choses merveilleuses. Il a fait toutes choses merveilleuses. Il faut que cela arrive à ce point. Marc 7, verset 37. Il fait tout à merveille. Il faut qu'après chaque réunion, on puisse dire, il a fait tout à merveille. Que les malades sont guéris et que ceux qui sont liés sont délivrés. Et que ceux qui ont des problèmes et qui ont des liens soient délivrés. Marc 7, verset 37. Il fait tout à merveille. Lui, c'est lui. Et il faut que cela se passe dans chaque réunion. Comme vous l'avez sûrement appris, cette fois-ci, Le week-end de Zurich a eu lieu une semaine avant, le dernier week-end du mois. Ensuite, il y a eu le dernier week-end en Autriche. Et nous avons aujourd'hui le nouveau couple, le jeune couple qui s'est marié la semaine dernière. Que le Seigneur vous bénisse de la plénitude de sa grâce. Et j'aimerais ici, à tous les jeunes, transmettre cela. Notre frère ne s'est pas dépêché. Il a eu 30 ans. Il n'a pas pris quelqu'un du monde. Il a attendu jusqu'à que le Seigneur lui accorde une sœur. Il a 30 ans, il a attendu, il est resté comme ça devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui donne une sœur. Et je dois dire que je ne veux prendre part à aucun mariage où des croyants et des incroyants se marient. Je ne veux pas prendre un tel mariage où un croyant se marie avec un incroyant ou bien une incroyante. Avec un tel mariage, je ne veux pas prendre part. Je veux que des croyants cherchent des croyants et trouvent des croyants. Et seulement ensuite, c'est seulement ensuite que nous pouvons dire ce que Dieu a joint. C'est seulement ensuite. Sinon, pas du tout. Sinon, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a joint. Car qu'est-ce que Dieu lui-même qui dit, qu'est-ce qu'un croyant a à faire avec un incroyant? Qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Il ne va jamais joindre un tel mariage. C'est peut-être raison que nous devons le dire en insistant. Écoutez, mettez votre confiance dans le Seigneur et lui, il rendra toutes choses merveilleuses. En ce qui concerne l'état catastrophique au milieu du message, j'aimerais vous lire les points qui, dans le monde entier, prennent leur cours et partout sont acceptés et crus. Et je voudrais aussi vous montrer comment est-ce que la prédication de la vraie parole de Dieu est importante. Il y a cet enseignement que le retour de Jésus-Christ a déjà eu lieu. Et que l'enlèvement avec l'ouverture des sceaux a eu lieu. Et que le temps de la grâce est passé. Et que le sang n'est plus sur le trône de la grâce. Et que la résurrection et l'enlèvement a lieu spirituellement et que les deux ont déjà eu lieu de manière spirituelle. Le souper du Seigneur n'a plus besoin d'être tenu, d'être fêté. Ces soi-disant révélations desquelles ici il est parlé, ceux-là qui croient ces choses-là, il est dit qu'ils sont déjà dans le millénium, et que ce n'est pas le message, mais que c'est le messager qui a été procureur et précurseur de la venue du Christ. Maintenant, suit la chose incroyable. La prétention que Jésus-Christ, autrefois, était sur terre, alors que Jean-Baptiste effectuait son ministère sur terre, aussi vrai que c'était ainsi. Donc, il faut que le Seigneur soit revenu pendant le temps où frère Branham était encore sur terre et effectuait son ministère. Et cela continue comme ça dans toutes sortes de fantaisies et d'arguments. Et c'est peut-être raison, bien-aimés frères et sœurs, la vraie prédication de la vraie parole de Dieu et le respect devant chaque écriture, de chaque verset est très important. Aussi en ce qui concerne le retour du Seigneur, la résurrection n'était pas spirituelle, elle était corporelle, s'il vous plaît. L'enlèvement de notre Seigneur n'était pas spirituel, il était corporel. Et son retour sera corporel, comme a été sa montée au ciel. Nous allons devoir publier ces choses par écrit. Et on va faire tout ce qu'on peut de notre force pour permettre au Seigneur d'aider tous ceux à qui il peut encore parler qu'ils puissent encore entendre la vraie parole et accepter la correction. Comme notre frère Hervé de Lyon disait, frère Franck, nous tenons avec toi, derrière toi, avec la prédication de la parole. Je voudrais aujourd'hui, à tous mes frères, de tout mon cœur, vous remercier dans tous les peuples, les langues et les nations qui, avec nous, pour le Seigneur et pour sa parole, se tiennent. Et personne, et ainsi ne font aucun compromis avec quoi que ce soit et qui que ce soit, mais restent dans la parole de la vérité. Notre frère qui enseigne à l'université nous salue avec Ésaïe, chapitre 62. D'Ésaïe 51, dans Ésaïe 51, nous avons déjà entendu. Mais notre frère nous salue avec Ésaïe 62. Et ici, le verset 1. Ensuite, versets 6 et 7. Ésaïe, chapitre 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, moi non plus, nous non plus. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dites Amen simplement. Cela a eu alors que cela ait lieu, que cela s'accomplisse au nom du Seigneur. Ensuite, le verset 6. Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, pas sur les murs de Rome ou bien d'un autre endroit, mais sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ici, nous l'avons déjà lu dans le chapitre 51. Ici, l'homme de Dieu fait mention à Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, qui était Abraham? Est-ce qu'il a cherché Dieu? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui l'a cherché? En Chaldéen, à Babylone, là où avant était le paradis, car Bashra, dans notre langue, veut dire paradis. C'est une ville de l'Irak, Bashra. Et celui qui regarde dans les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 2, Élie, l'Euphrate, n'est-ce pas, appartenait à l'un des quatre fleuves qui s'est ensuite divisé. Et ensuite, eux est passé par le pays, ils sont passés par les pays. Là où tout a commencé, là où l'humanité, le berceau de l'humanité s'est trouvé, là où l'adversaire a apporté le désordre, c'est là-bas qu'était Abraham. Et le Seigneur s'est révélé à lui là-bas, l'a appelé. Il était seul, mais Dieu lui a donné la promesse à lui. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'Abraham crut Dieu. Abraham n'a pas seulement cru, Abraham, il a cru et il a obéi à Dieu. À partir du chapitre 12, on voit la foi d'Abraham. Au chapitre 22, on voit l'obéissance d'Abraham. Et c'est ainsi qu'il fut prêt à sacrifier Isaac. Et ensuite, Dieu l'Éternel lui a dit, « Je jure par moi-même, tous les fils et les filles de Dieu qui spirituellement sont la descendance d'Abraham, croient Dieu, obéissent à Dieu et marchent dans les voies de Dieu. Le deuxième verset biblique était Ésaïe 55, l'un que les frères. Et ça aussi, c'est un verset très important que nous avons aussi souvent à cet endroit mentionné. Ici, il s'agit de la semence et il s'agit de la pluie que Dieu accorde pour que la semence puisse produire de son fruit. Ésaïe 55, ici nous lisons le verset 10 et 11. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Ça, c'est merveilleux. Dieu a pris la pleine responsabilité. Notre responsabilité est de prêcher sa sainte et précieuse parole avec toute la véracité. Lui, il prend soin pour le reste. En ce qui concerne le semeur, c'est ainsi que nous pourrions mentionner Matthieu 13 et lire Matthieu 13, où le Seigneur, n'est-ce pas, très clairement a parlé de ce sujet, qu'il est le semeur qui sème la bonne, qui a semé la bonne semence, et que les enfants du royaume sont justement cette semence qui a produit de son fruit. Et bien sûr aussi, concernant l'autre semeur qui vint tout de suite derrière le bon semeur, et quand les gens se sont endormis, c'est à ce moment-là qu'il a semé sa semence. Et il faut que cela soit dit dans toute la clarté. La parole est la semence. Et chaque interprétation est, n'est-ce pas, l'œuvre de l'adversaire qui, par les interprétations, sème sa propre semence. C'est peut-être raison que nous devons être très attentifs à ce que nous puissions demeurer sous la conduite du Saint-Esprit dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu pour pouvoir demeurer dans la parole et dans la volonté de Dieu. Nous devons demeurer sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et lisons encore d'autres versets bibliques qui viennent de l'évangile de Jean, le chapitre 4, aussi une parole très connue, Jean, le chapitre 4, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37. Jésus leur dit, Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ensuite, le prochain verset. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, verset 35. La deuxième partie maintenant. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Maintenant, sur le verset particulier, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire en amassant des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Les deux, celui qui moissonne et celui qui sème, peuvent ensemble se réjouir. Ensuite, dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, ici, c'est au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au sèmeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Le Seigneur accorde sa grâce pour toutes choses, pour toutes ces choses, et que dans ce temps dans lequel nous sommes, nous avons une telle plénitude de la parole de Dieu qui est la semence, justement. Et le germe de vie est dans chaque semence, n'est-ce pas? Le grain, le germe de vie est dans chaque semence. Et ça, nous avons eu assez souvent à le dire. Si on laisse le grain de blé dans le grenier, la vie ne va jamais se manifester. On peut laisser des centaines d'années dans le grenier, on peut laisser le grain, jamais il va produire de son fruit. C'est au moment où le grain de blé est semé et que la pluie tombe et que le grain de blé meurt et pourrit. C'est par cette procédure-là que la vie qui est en lui peut se manifester. Et c'est ainsi que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, le grain de blé doit mourir, sinon il reste seul. Et notre Seigneur est mort, et nous sommes morts avec lui, et il n'est pas resté seul, mais sa mort a servi à quelque chose. Nous sommes le grain de blé qui est manifesté en tant que le fruit de son œuvre. Et le Seigneur a dit que le grain de blé sera rassemblé et rassemblé au grenier et la paille sera brûlée. Tout est ordonné de manière merveilleuse par Dieu. En regard à ce qui m'a occupé en regardant toutes les différentes difficultés qui existent parmi nous, c'est dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, ici, le verset 3, peut-être le verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Der Gott und Vater unseres Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1, maintenant, verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est ainsi en général que on doit d'abord soi-même passer par des épreuves et des difficultés pour pouvoir comprendre les autres qui sont dans des épreuves et des difficultés. C'est peut-être raison qu'il est parlé de notre Seigneur lui-même que de toutes sortes de manières, il fut éprouvé et même tenté, il est écrit dans Hébreux, et qu'il nous comprend dans nos faiblesses et pour être un souverain sacrificateur qui combattit nos faiblesses. Bien, mes frères et sœurs, vous qui aujourd'hui peut-être ne pouvez être compris par aucun frère et par aucune sœur, vous qui vous ressentez incompris et qui vous sentez seul ou bien abandonné, bien, mes frères et sœurs, il y en a un qui, lui, vous comprend. Il y en a un qui vous comprend.
Il y en a
aussi quelques-uns qui vous comprennent, qui portent avec vous les fardeaux, qui prient pour vous, et dont il est écrit ici, qui peut vous consoler de la consolation dont ils ont été eux-mêmes consolés dans leur affliction. Au verset 5, car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Dieu a toujours une parole, il a toujours une solution. Nous n'avons pas besoin de nous sentir abandonnés. Car c'est ainsi que le Seigneur l'a dit et les promesses, il les a données. Je serai avec vous dans toutes circonstances, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Et tout ce qui passe par lui et nous touche va nous rapprocher du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons croire et prier comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous allons ensemble apporter au Seigneur toutes les difficultés et nous allons louer la victoire de Golgotha dans la foi que le Seigneur, sur la croix à Golgotha, n'a pas seulement accompli et accordé la rédemption, le pardon, mais il a vaincu le diable et ensuite l'enfer. Et par la résurrection, cette victoire a été manifestée. Toutes les ténèbres, toutes les puissances des ténèbres ont été désarmés. Et notre Seigneur est le victorieux de Golgotha. Et c'est notre foi qui est déjà la victoire qui a vaincu le monde. Nous voulons aujourd'hui de tout notre cœur croire, de tout notre cœur être reconnaissant. Et bien, mes frères et sœurs, comme souvent j'ai eu à le dire, si Dieu dans ce temps nous accorde la grâce de croire sa parole, ses promesses, et de nous tenir à ses côtés, de son côté, et de croire ce qu'il a promis, et de le recevoir, de l'accepter, alors ça veut dire que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. J'ai lu la prédication de Frère Branham où il lit Romains, où il a utilisé Romains 7, les premiers versets, comme sujet de sa prédication, je crois qu'avec le titre l'union invisible de l'épouse du Christ, et qui nous montre que le Seigneur a rétabli tous les dégâts, a réparé tous les dégâts. Et comme dans aucune autre prédication, il nous montre dans cette prédication-là que nous ne pouvons pas en même temps appartenir à une église et ensuite appartenir à son église. Ou alors, il a pris cet exemple qu'une femme est liée à son mari tant qu'il vit. Et ensuite, il a tiré la comparaison. Ou alors, nous sommes liés à ce qui se passe dans une institution, dans une église, ou bien alors nous sommes morts à toutes ces choses, au monde et à ces églises. Pour appartenir réellement à Christ, il a montré qu'il ne peut pas avoir de mélange. Nous ne pouvons pas en même temps appartenir au monde et à leurs églises et à Christ, ou alors l'une ou alors l'autre. On doit réellement être mort à la première chose, au vieil homme, pour pouvoir vivre avec Christ. Cette prédication est vraiment merveilleuse quand on s'approfondit dans ces choses et qu'on se laisse toucher par la parole. Et ensuite, on tire la comparaison. Dieu nous a appelés à sortir. Il n'a pas mélangé des vieilles doctrines avec des nouveaux, avec des nouvelles. Mais il a fait toutes choses nouvelles. Et à cet endroit, je voudrais faire cette remarque, pas pour critiquer. Il y a une confession de foi qui croit à l'union de Dieu, particulièrement en Jésus-Christ, en tant que le seul Dieu. Et il y a un point qu'ils ont, disant que le pardon des péchés a lieu par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. À cause d'un seul verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ils ont complètement oublié ce qui concerne le sang et la rédemption accomplie sur la croix, Golgotha, etc. Et même ces versets merveilleux là, merveilleux de Actes des Apôtres chapitre 10, alors que Paul, dans la maison de Corneille, prêchait et que le Saint-Esprit fut déversé et que tous furent remplis et que la nouvelle vie a été manifestée. Ils parlaient en langue et louaient le Seigneur. Imaginez-vous, si le pardon n'était pas lié au sang, au sacrifice qui a eu lieu à Golgotha, s'il n'était pas lié au sacrifice, alors Dieu aurait déjà auparavant, avant qu'il puisse pardonner, il aurait pu leur accorder le baptême de Saint-Esprit. Et cela n'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, il fallait que le Seigneur meure dans la chair. Et ça, je le dis parce que je me réjouis de ce que je n'ai pas un enseignement spécial. Et je ne me suis pas concentré sur quoi que ce soit, mais je laisse Dieu agir. Et sur chaque parole de Dieu, nous laissons la parole dire oui, amen. Et l'apôtre Pierre dans Actes apôtre 15, déjà même avant, dans le chapitre 11, il a exposé toutes ces choses. Je voudrais vous lire cela pour que nous puissions savoir que nous devons croire chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Pas seulement un seul verset, mais le prochain, et encore une fois le prochain, et encore une fois le prochain. Et ensuite, pour avoir une vue d'ensemble, ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, en relation avec notre Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Quiconque croit en lui, reçoit le pardon de ses péchés. Ensuite, après avoir reçu le pardon de ses péchés, il se laisse baptiser en confirmant le pardon des péchés qu'il a expérimenté.
Kann wohl jemand diesen Leuten
comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Au verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Au verset 47 maintenant, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. De quoi il s'agit? Nous devons toujours croire comme le dit les Écritures. Et sur un sujet, prendre tous les versets bibliques qui traitent ce sujet. J'ai lu dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Celui qui lit, par exemple, seulement Marc a seulement un petit exposé sur le ministère de Jean-Baptiste. Il n'a même pas, c'est même pas un chapitre qui parle du, n'est-ce pas? On doit lire Matthieu, on doit lire Luc, on doit lire l'évangile de Jean pour avoir une vue d'ensemble. Pour avoir une vue d'ensemble, car chacun a écrit ce que l'Esprit lui avait donné d'écrire. Et quand on met ensemble ce que chacun a écrit, c'est comme ça qu'on a une vue d'ensemble et un témoignage entier. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, il est écrit au verset 15, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et maintenant arrive. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, une vue d'ensemble. Foi, baptême, baptême Saint-Esprit. Ou bien foi, baptême Saint-Esprit, baptême. Ce qui est important, c'est que nous puissions croire bibliquement et que nous soyons remplis de cet esprit. Que nous soyons baptisés bibliquement. Mais pas d'avoir ce qu'on met aux chevaux pour pas qu'ils aient peur et aller dans une même direction, dans une seule direction. Nous devons croire comme le dit les Écritures. Comme le dit les Écritures. Vous savez, le débat que Frère Branham avait eu avec ces deux directions pentecôtistes, l'une était trinitaire et l'autre unitaire. Et l'unitaire disait, ceux qui sont trinitaires ne sont pas sauvés parce qu'ils ne sont pas baptisés bibliquement au nom de Jésus-Christ. Et vous savez ce que Frère Branham ensuite a vu en vision. Il a vu deux arbres. Sur l'un des arbres était écrit Trinité, sur l'autre Unité. Et il vit comment est-ce que les deux, il vit comment il a saisi les deux arbres et qu'il les a secoués, comment est-ce que des fruits sont tombés des deux arbres pour que la vraie prédication prenne son cours et que tous reçoivent de l'enseignement biblique. On doit simplement savoir et donner à la parole de Dieu toute la raison et pas à un homme et à son enseignement qui est seulement dans ce langue-là. En cet endroit, nous pouvons que remercier Dieu et encore une fois remercier Dieu. Et je voudrais pour cela encore lire quelques versets bibliques de l'évangile de Jean. Jean chapitre 17. Ici notre Seigneur, dans Jean 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. J'ai lu rapidement le chapitre aujourd'hui. J'ai vu ça devant moi, chapitre 15, chapitre 16. Et de tout mon cœur, je me suis réjoui. Dans le chapitre 17, nous avons La vérité divine, verset
3.
Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, il a lu le chapitre 15 et le chapitre 16. Et ici, il lit chapitre 15, verset 3. Le Seigneur nous a parlé, n'est-ce pas? Il t'a parlé comme il a parlé avec Abraham. Et tu savais que c'est Dieu qui parle avec toi par sa parole. Et il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean 15, ensuite verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'aujourd'hui, ses paroles demeurent en nous. Et nous avons la promesse, s'il vous plaît, demandez. Nous avons ici la promesse que notre Seigneur a prononcée. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la promesse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Alors, s'il vous plaît, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Particulièrement, il y a deux, trois sœurs. Est-ce que vous pouvez le croire? Ce que nous avons lu, le Seigneur l'a promis. Le Seigneur l'a dit. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Il y a des cas très difficiles, mais ici il est dit, demandez ce que vous voulez. Apportez vos requêtes au Seigneur, quoi que ce soit. Apportez au Seigneur et recevez de lui la réponse et repartez avec ça à la maison. Car c'est ainsi que c'est écrit. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela, dites Amen. Cela vous sera accordé. Ça, c'est le Seigneur, notre Seigneur, qui l'a dit. Et sa parole est vraie encore aujourd'hui. Et elle nous parle. Et elle est valable pour toi et pour moi. Toutes les promesses qu'il l'a données. Au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus. Je vous ai
verset
16. Il lit le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Nous pouvons demander quoi que ce soit. Et ce sera sûrement des prières qui ne contiennent pas quoi que ce soit, mais qui sont dans la volonté de Dieu, qui viennent de la profondeur de notre cœur. Et cela aussi est valable pour tous les cas que ce week-end j'ai appris. Tout ce que j'ai appris de profonde détresse, je crie à toi, ô Dieu. Et comme il est écrit, invoque-moi dans les détresses, je te répondrai et tu me loueras. Comme je l'ai dit auparavant, tant de difficultés en une seule fois, je ne l'ai jamais entendu. Et cette parole que nous avons lue maintenant, demandez ce que vous voulez cela vous sera accordé. Acceptons cela comme une réponse de Dieu lui-même qu'il nous a donné ce soir. Et comme aussi au verset 16, nous l'avons lu. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Acceptons-le de la main du Seigneur. Maintenant, arrive ce que nous avons tout à l'heure lu dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 1, que nous portons ensemble les fardeaux les uns des autres et nous avons de la compassion. Ce que je vous commande, verset 17, ce que je vous commande, c'est que vous aimez, c'est de vous aimer les uns les autres. Il faut que l'amour soit présent dans notre cœur. Même dans la prière, il faut que l'amour soit dans notre cœur. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. De vous comprendre les uns les autres, de se tenir dans la prière les uns pour les autres, de porter les fardeaux des uns des autres. Et que les requêtes de l'un ne soient pas indifférentes à l'autre, etc. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. De vous pardonner, de vous aimer tout ce qui pourrait être un obstacle, de l'apporter au Seigneur. Et lui, il fera toutes choses à merveille. La deuxième partie du verset 19. Du verset 19.
Weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt
heraus. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Ici sur terre, nous n'avons pas de demeure permanente. Tous les croyants sont la cible de l'adversaire, sont exposés à la cible à l'adversaire, comme particulièrement Israël était entouré d'adversaires et d'ennemis. Mais nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur et savoir qu'il fera toutes choses à merveille dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. À la fin du jour du salut, nous pourrons dire, il a fait toutes choses à merveille. Et celui qui lit tout le chapitre de Marc 7, tout ce qui existait comme maladie, et comment est-ce que le Seigneur les a tous guéris. Et ensuite il a dit, il a fait toutes choses à merveille. Marc 7, verset 37. Et nous avons, et avec cela j'arrive à la fin, nous avons le meilleur exemple dans le ministère de frère Branham. Dieu a répondu à ses prières à l'instant même. À l'instant même. Et Dieu exaucera aussi nos prières. Car ce que Dieu a fait par le messager, il veut le répéter par tous ceux qui croient le message. Nous ne vivons pas de ce qui était, nous vivons de ce que Dieu fait maintenant, aujourd'hui. Et ça, c'est simplement très important que nous ne disions pas simplement « il était une fois ». Et ensuite, en plus, ce n'est plus le cas, mais que nous puissions dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et c'est ainsi que nous avons la consolation dans la parole de Dieu elle-même. Demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. C'est merveilleux. Si tu te sais touché par cette parole, Sache que le Seigneur maintenant parle avec toi. Il a vu mes difficultés. Il a vu tes difficultés. Il a vu le cri de ton cœur. Je suis resté dans sa parole, selon tout ce que je pourrais, selon toute ma conscience, et ce que je lui demande, il me l'accorde. Dans la foi, l'accepter et le dire au Seigneur, et il l'accomplira tel que nous l'avons lu. Je le répète encore une fois, Dieu nous a accordé la grâce de croire comme le dit les Écritures et de n'accepter aucune interprétation, mais de croire comme le dit les Écritures. Et le Saint-Esprit nous a conduits dans toute la vérité, comme dans Jean 16, au verset 13, il est écrit, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est merveilleux de ce que nous retrouvons dans la parole. Nous nous retrouvons dans la parole. Le Saint-Esprit nous a conduits dans toute la vérité. Les hommes de Dieu peuvent prêcher la parole, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut la révéler à chacun. Comme encore ici, au verset 4 de Jean 16, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Tout. Il a pris soin de nous dire toutes choses à l'avance et nous le confessons ouvertement et librement que dans notre temps, Dieu avait un prophète qu'il avait promis par lequel et dont le message a révélé tout le conseil du salut de notre Dieu, en commençant avec le jardin d'Éden jusqu'à les nouveaux cieux et la nouvelle terre à la fin de l'Apocalypse. Dieu le Seigneur a révélé toute la Bible et nous lui en sommes très très reconnaissants de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous a même fait savoir les choses à venir, car ce livre contient le passé, le présent et le futur. Ce qui est encore dans le futur est déjà écrit ici. Tout est déjà écrit à l'avance. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons le recevoir révélé. Nous pouvons le recevoir révélé. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et ensuite, nous avons tous la même révélation, le même enseignement, la même connaissance. Nous sommes tous conduits par un seul esprit et baptisés dans un seul esprit et dans un seul corps par un seul esprit. Et le Seigneur est le chef de l'Église, la tête de l'Église, et alors tout va bien. Nous croyons même ce que dit les Écritures, que dans chaque ville, il n'y a seulement qu'une seule église du Seigneur. Il n'y a jamais eu deux ou bien trois églises à Jérusalem, ou bien à Éphèse, ou bien en Corinthiens, ou bien à Thessalonique, ou bien à Galates. Il n'y avait qu'une seule église dans l'église du temps des apôtres, et c'est dans cette église-là que Dieu agissait et qu'il a établi des ministères. Et dans cette seule église-là, c'est là que par l'action surnaturelle de Dieu, du Saint-Esprit, c'est ainsi que sous la prédication de la parole, Dieu a manifesté sa vie. Mais quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, ou bien il n'y a pas loin d'ici, il y a dans une seule ville deux, trois églises et combien d'églises? Mais ça, vous pouvez le lire dans les prédications de Frère Branham. Toutes ces choses peuvent être lues. Le Seigneur a un ordre et il a aussi un ordre dans le conseil du salut. Nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut et nous devons nous soumettre à cet ordre de Dieu. Jamais, jamais une église de Jésus-Christ est apparue par une interprétation ou bien par une division. Jamais une église du Seigneur a été établie par une division, jamais. Mais toujours par l'action surnaturelle du Saint-Esprit, lié avec Dieu, et la vie de Dieu lui-même a été manifestée par les rachetés. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu, le Seigneur, de ce qu'en qui concerne ces choses, nous avons de la clarté. Le Seigneur a une église, une seule église, en tant que pilier et appui de la vérité. Et c'est dans l'église de Jésus-Christ qu'aucun faux enseignement a de la place. Aucun. Dans l'église de Jésus-Christ, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15, elle est l'appui et le pilier de la vérité. Et le Seigneur lui-même a envoyé son messager, et particulièrement Frère Branham, dans notre temps. Imaginez-vous et représentez-vous cela. Si cela n'était pas ainsi, tous auraient eu une excuse. Mais c'est par le message divin que nous avons eu la grâce d'être ramenés au commencement direct de l'Église. Et c'est le Seigneur lui-même qui ordonne toutes choses telles que c'était au commencement dans son Église. Et maintenant, ça ne suffit pas que nous puissions appartenir à une Église, mais que nous puissions appartenir à son Église, de laquelle lui-même il disait « Je bâtirai mon Église ». Et tel que l'Église, le jour de la Pentecôte, a été fondée par une action surnaturelle du Saint-Esprit, c'est ainsi que dans chaque réveil, l'action du Saint-Esprit surnaturel a été manifestée, et c'est ainsi que des hommes sont nés d'en haut, de nouveau pour une espérance vivante. Et ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, ont reçu. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse utiliser ce soir, ou où que ce soit ici et dans un autre endroit, qu'il puisse bénir partout dans le monde entier, accorder sa grâce, accorder la compréhension et un amen à chaque parole dans les cœurs. Selon la parole de l'Écriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons entendu dans Ésaïe 62 et dans Ésaïe 51 et dans Ésaïe 55, nous avons tous lu. Et nous avons un amen de tout notre cœur à la parole. La parole qui est sortie de ma bouche dit le Seigneur, ne retournera pas à moi sans effet. Il a accordé aux semeurs de la semence. Et je vous dis que nous avons reçu de la semence. Précieuse est du Seigneur. La semence incorruptible de la parole de Dieu. Un plein évangile. Un plein salut. Et Dieu nous a accordé la grâce de croire comme le dit les Écritures. Pour la dernière fois, que cela soit dit encore une fois, nous l'avons lu déjà. Si vous demeurez en moi, Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Demandez ce que, encore ce soir, aujourd'hui, demandez maintenant ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Amen.
Amen. Nous voulons nous lever et ensemble prier. Je voudrais que tous, vraiment, que tous ceux qui vraiment ont une requête particulière, vraiment particulière, qu'ils puissent l'accepter dans la foi, que le Seigneur aujourd'hui répond. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Nous courbons les têtes et demeurons dans la prière. Et par le Saint-Esprit, nous nous laissons convaincre que nous vivons encore dans les jours bibliques et que la parole de Dieu est vraie et que le Seigneur vit et que aujourd'hui encore il confirme sa parole. Et comme cela a été dit, le meilleur exemple était le ministère de Frère Branham, dans lequel vraiment tout s'est passé tel que c'était du temps de notre Seigneur lui-même et des apôtres. Et les Saintes Écritures disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Notre Seigneur a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. La parole est écrite au pluriel, s'il vous plaît, pas au singulier. Vous les ferez aussi pour que le Père au ciel soit glorifié. Aujourd'hui, parmi nous, que cela soit manifesté, que la parole de Dieu est demeurée en nous et que nous sommes et que nous demeurons en lui et que lui y demeure en nous et qu'aujourd'hui, dans la foi, nous allons prier selon ce qui est dans notre cœur. Nous allons lui apporter toutes nos requêtes. Ne vous inquiétez pas, ne pensez pas « Oh, mon cas est le plus difficile ». Non, ce n'est pas ton cas. Maintenant, c'est le cas. Tu l'as remis au Seigneur. Tu as remis ton cas au Seigneur. Donc, ce n'est pas ton problème. Ce n'est plus ton cas. Tu l'as remis au Seigneur. Tu as remis tout entre les mains du Seigneur. Nous courbons les têtes, nous fermons les yeux. Levez les mains, vous qui voulez être inclus dans cette prière. Nous allons prier pour tous. Nous allons prier pour tous. Et pour tous, nous allons prier. Dieu le Seigneur, qui vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes rassemblés devant ta face. Nous croyons ta sainte et précieuse parole. Nous croyons à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Nous croyons que tu as expié nos péchés et nos fautes. Nous croyons que tu as délivré tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et tous ceux qui sont malades, tu les as guéris. Dans tes mains sûres, nous sommes guéris. Bien-aimé Seigneur, que cela aujourd'hui, soit manifesté que tu as exaucé nos prières et que tu as secouru et que tu as aidé et que tu as délivré et que tu as sauvé et que tu as guéri. Nous croyons que tu es le même. Tu t'es manifesté en tant que le même dans notre temps. Nous te remercions pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour la pleine clarté de ta parole. Tu nous conduis par le Saint-Esprit dans ta parole. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Et maintenant, bien-aimé Seigneur, nous allons maintenant lever nos mains pour te remercier pour ce que tu as exaucé nos prières. Nous te remercions de ce que tu as exaucé nos prières. Levez les mains. Remerciez le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Recevez ce dont ce que vous avez prié. Cela vous appartient. Dieu nous a exaucés. Recevez. Et soyez bénis. Alléluia.
Hallelujah.
Gloire et honneur.
Gloire et honneur
soit apporté à notre Dieu. Nous avons dans ce cœur, n'est-ce pas, je crois que c'est dans le cœur de la Pentecôte, ce cantique qui dit « Les promesses de Dieu demeurent éternellement ». Prenez Dieu à sa parole. Regardez ce que nous avons ici. Je suis en train de regarder et dans la foi, nous voulons le chanter. Ce cœur, les promesses de Dieu ne s'ébranlent pas et demeurent vraies éternellement. Peut-être que, oui, peut-être, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un, que nous puissions remercier le Seigneur aussi dans... Remercier le Seigneur par aussi un cantique. Chantons ensemble. Chantons le cantique 6.
Auf dem Wort des Königs Jesus Christ. In Englisch wird ja sehr viel gesungen. Lied Nummer 6.
En anglais, c'est souvent chanté.
Thank you.
2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 22.
Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in
Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui.
Erfolgt. Gott zur Verherrlichung.
Est prononcé par nous à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. C'est par nous que Dieu accomplit ses promesses. Et ainsi, il est glorifié à celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints. C'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Chantons encore le cœur. Et ensuite, Frère Schmidt va prier. Alléluia. Père céleste, nous te remercions et nous t'apportons l'adoration. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te remercions de ce que en Christ, tu nous as tout accordé. Tu as accordé la guérison et le salut. Tu as accordé la rédemption et la délivrance. Nous te remercions. Ainsi, nous te demandons comme première chose, accorde à tous ta grâce pour l'accepter, pour le croire, comme tu l'as promis. Nous te remercions car, Seigneur, tel que tu l'as dit, en toi est le oui et le amen. Nous te remercions pour cela. Tu es en toi est la promesse et l'accomplissement. Oui, amen. La promesse et l'accomplissement par nous pour la gloire de Dieu. Nous te remercions
Gnade, Herr Jesus, uns allen und allen, die mitgehört haben.
Nous te remercions, Seigneur notre Dieu.
Und dich dafür preisen, denn in dir.
C'est en toi que nous avons le salut, la guérison et tout ce dont nous avons besoin. Nous te demandons ta bénédiction pour tous. Que ce soit remis à nos requêtes, que ce soit ici ou dans un autre endroit. Tu connais chacun, fais grâce et touche chacun et nous voulons te louer et t'exalter. Amen. Alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. Alléluia. Et que le peuple dise Amen. Que tous soient bénis dans le monde entier, tous ceux qui étaient en ligne, qui sont en ligne, qui reçoivent un nouveau courage à regarder à Dieu et à prendre pour leur personne les promesses de Dieu. Dieu le Seigneur est fidèle. Et il conduit toutes choses telles qu'il a promis. Je suis convaincu que ce jour est allé dans l'histoire du salut et que Dieu a fait de grandes choses. S'il vous plaît, recevez-le dans la foi et remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Chantons encore, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs, aussi de tous les pays voisins qui ne connaissent pas notre langue, mais malgré tout, suivent de tout leur cœur par la traduction, chantent et écoutent et croient comme le dit les Écritures, car tu as promis que de tous les peuples, les langues et les nations, tu as promis d'appeler à sortir et le Saint-Esprit parle dans chaque langue, à chaque personne, et encore ce soir. Je te remercie pour cela. Parle particulièrement à tous les jeunes, à tous les jeunes qui puissent consacrer leur vie au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, attire à toi ce qui est encore éloigné. Sauve ce qui est perdu. Accorde des décisions qui sont dans ta volonté. Bien-aimé Seigneur, nous pouvons t'apporter tout dans la prière et t'apporter tous. Nous sommes dépendants de ta grâce. Mais de ta plénitude, nous pouvons recevoir grâce sur grâce. Encore aujourd'hui, Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci pour toutes les Écritures. Te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Te remercie de ce que, par le Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité. Bénis, en commençant avec la Nouvelle-Zélande, dans tous les peuples, les langues, du lever du soleil jusqu'à son coucher, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, que le dernier message puisse atteindre les derniers. Nous te demandons, viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous te remercions encore une fois pour ta parole, pour la la certitude que tu nous as exaucée aujourd'hui, pour la conviction et que tu nous as accordé tout ce dont nous t'avons demandé. Dans la foi, nous pouvons dire, tu as accompli et tu as fait toutes choses à merveille. Tu nous as exaucés et tu as eu de la miséricorde, tu as eu de la compassion avec nous. Laisse luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Et encore une fois, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Gloire soit apportée à ton nom.
Alléluia.
Amen. Saluez-vous les uns les autres. Que Seigneur vous bénisse. Nous faisons demain comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous venons dans le recueillement et dans la prière et le Seigneur nous bénira.